La Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, la Maison Romane, conférence de ce 18 août 2017. Thierry Leroy, Maurice Sellès, responsable du service du patrimoine de la région Occitanie.
Je vous propose de ne pas faire attendre davantage notre conférencier, Maurice Sellès. Depuis longtemps, nous pensions trouver une occasion de reparler de la Maison Romane, sujet quand même très bien connu à Saint-Antonin. Là, la raison supplémentaire qui nous a conduit à programmer une conférence sur ce sujet, c'est que c'est la situation où se trouve la Maison Romane du point de vue de la visite du public. Vous le savez, cette maison actuellement renferme le musée de Saint-Antonin, dont elle fait à bien des égards partie d'ailleurs. Et depuis quelque temps, elle est presque constamment fermée au public. C'est pas comme l'époque où Monsieur Lastic Saint-Jal s'en occupait beaucoup plus régulièrement que nous ne savons le faire aujourd'hui. Et on va sans doute, parce qu'il y a un projet pour le musée de Saint-Antonin, mettre les collections qui sont dans la maison romane en réserve pour restauration, sans doute pour un certain temps, peut-être plusieurs années. Et nous avons pensé aux amis du vieux Saint-Antonin qu'il ne fallait pas que la maison romane cesse complètement d'être visitable dans cette période. Bien sûr, on peut toujours la visiter de l'extérieur, mais on est loin des sculptures et de l'intérieur, il y a évidemment beaucoup à apprendre. Donc nous avons la préoccupation d'essayer de retrouver les moyens, avec les forces bénévoles de notre association, d'organiser des visites à peu près régulières en saison de la maison romane, avec l'aide des bénévoles de notre association. Et pour ce faire, nous avons prévu notamment que ces bénévoles pourraient être formés à l'exercice consistant à accueillir du public. Non pas à devenir guide conférencier professionnel, ce serait une concurrence déloyale. Non, mais simplement faire un accueil éclairé des visiteurs de toutes sortes, touristes, habitants, scolaires même, qui s'intéressent à la maison romane et qui vont avoir, à partir du moment où les collections seront mises en réserve dans quelques mois, disponible pour une visite plus facile que tant qu'il y a des collections. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on a pensé à inviter Maurice Sellès, qui aujourd'hui va faire cette conférence sur la maison romane, son histoire, son architecture, enfin c'est lui qui va dire exactement son propos. Mais demain matin, avec lui, pour une dizaine et un peu plus des adhérents de l'association, il nous donnera une formation, je l'appelle comme ça, pour les adhérents qui souhaitent se rendre disponibles dans quelques mois pour accueillir le public dans cette maison romane. Voilà une des raisons pour lesquelles cette conférence a été programmée. Mais vous êtes venu pour autre chose, vous êtes venu pour écouter Maurice Sellès. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne suis pas sûr, mais quand même un mot pour ceux qui n'étaient pas là il y a 40 ans. Il y a, non, 40, j'exagère un tout petit peu, mais 30, un peu plus de 30 ans, Maurice Sellès a fait un mémoire qui a fait date sur la maison romane, qui a été publiée comme un mémoire de la Société archéologique du Midi de la France, et qui est publié à ce titre, qui est très connu au sein des adhérents de l'association, mais tout le monde n'a pas eu l'occasion de la lire. Peut-être vous aurez le désir de le faire après cette conférence. Voilà, c'est lui qui a vraiment fait, avec le travail de l'inventaire et dans la foulée du travail de l'inventaire, cette étude d'histoire de l'art, d'architecture de la maison romane. Et il est resté depuis ce temps-là, le premier spécialiste de la maison romane. Lui ne le dirait pas, mais moi je peux le dire. Voilà, donc je vais lui donner la parole. Merci à vous.
Bonsoir, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est un peu impressionnant quand même de parler d'une maison romane avec laquelle vous vivez sans tous les jours, et de venir un peu de l'extérieur, comme ça, 30 ans plus tard. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas repassé à Saint-Antonin depuis, et que je n'ai pas eu l'occasion, effectivement, de présenter à nouveau, lors d'un congrès ou lors d'un groupe de travail, la maison romane. Mais devant vous, c'est particulièrement impressionnant, je peux vous le dire. Je ne sais pas, alors, je ne sais pas exactement... J'ai pas la prétention de vous présenter la maison romane, de vous la faire découvrir. Vous la connaissez très bien. Donc j'ai essayé en plus parce que c'est aussi pour moi un travail qui est ancien. 30 ans, effectivement, hein. Depuis, je n'ai plus jamais retravaillé sur la maison romane. Mais en revanche, j'ai travaillé depuis, et c'est à cause de la maison romane de Saint-Antonin que j'ai travaillé pendant 30 ans, que je continue à travailler, sur la maison du Moyen-Âge. Là, je reviens de 3 jours à Cluny, où nous avions une réunion de travail, justement, sur les maisons, sur une maison en particulier, clunisoise. Donc en fait, vous voyez que cette maison romane a été pour moi aussi déterminante dans mon travail d'historien de l'art, d'archéologue au sens le plus général du terme. Je ne suis pas archéologue techniquement, c'est-à-dire je ne suis pas un archéologue de fouilles, mais j'emploie le terme d'archéologie au sens où on l'emploie pour la Société archéologique du Midi de la France, c'est-à-dire en fait la connaissance des monuments au sens le plus large des civilisations disparues. Alors, c'est donc un élément important pour moi, et c'est pour ça aussi que je me suis demandé comment vous parler de la maison romane de Saint-Antonin, parce que comment parler d'un objet que votre public connaît ? C'est difficile. Alors, je me suis dit que peut-être le plus intéressant, c'était d'essayer de la replacer, du coup, dans un contexte, non pas le contexte de Saint-Antonin, mais le contexte de la maison médiévale en général, pour voir finalement, est-ce que cet édifice, qui est extrêmement célèbre, pour des raisons diverses que nous allons revoir, qui est très célèbre évidemment à Saint-Antonin, mais bien en dehors de Saint-Antonin, comment cette architecture s'inscrit, est-ce qu'effectivement il est à ce point exceptionnel? Et s'il l'est, pourquoi? Et sur quel point particulier? Alors il faut rappeler donc tout d'abord que le travail qui a été fait, Monsieur Leroy le disait, est un travail d'équipe. Dans les années 80, le service de l'inventaire général, qui est un service qui a pour mission, comme son nom l'indique, actuellement, il s'agit de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel. C'est-à-dire que vous voyez que le champ est extrêmement large. Nous sommes chargés, dans ces services, d'étudier tout ce qui concerne le patrimoine culturel. Et quand, maintenant, si on est passé des richesses artistiques de la France et des monuments de la France au patrimoine culturel, c'est parce que, évidemment, nous allons jusqu'au patrimoine immatériel, ce qui demande évidemment d'autres spécialités. Ce qui est intéressant surtout dans ce type de travail, c'est que contrairement à un travail universitaire qui est souvent très orienté sur des thèmes de recherche qui durent pendant plusieurs années, l'inventaire général, comme son nom l'indique, étudie tout. Des maisons, des châteaux, des églises, mais aussi des tapisseries, des peintures, des calices. La formule habituelle étant, l'inventaire général va de la petite cuillère, sous-entendu à café, jusqu'à la cathédrale. Donc quelque chose d'extrêmement global, qui est une approche assez spécifique, même si la tendance a beaucoup évolué ces dernières années, pour des raisons d'augmentation considérable du corpus. Mais le travail qui a été mené effectivement sur les deux cantons de Caylus et Saint-Antonin, c'est un travail d'ensemble, la maison romane n'était qu'une toute petite partie de l'étude qui a été faite sur ces deux cantons pendant plusieurs années avec plusieurs chercheurs, puisque c'est l'ensemble du service pratiquement qui était engagé sur cette opération. Alors vous en avez vu le résultat, vous le connaissez sans doute, c'est le volume des cahiers du patrimoine sur les cantons de Caylus et Saint-Antonin. Et je vous rappelle que cette documentation est actuellement en ligne, elle a été entièrement numérisée, c'est-à-dire que le livre est un extrait, bien évidemment, de tout le travail qui a été réalisé, et que tous les dossiers, puisque le rôle de l'inventaire général, c'est de constituer des archives du patrimoine de la France. Donc tous ces dossiers sont rédigés, mis en forme, de façon à être disponibles pour le public. Alors il est vrai que il y a 30 ans, disponible pour le public, ça voulait dire que vous pouviez éventuellement accéder à des microfiches qui étaient finalement assez difficilement accessibles. Aujourd'hui, disponible au public, pour le public, c'est tout à fait une réalité grâce évidemment à la numérisation et à Internet. Donc ces dossiers vous sont parfaitement accessibles. Je les ai communiqués pour plus de facilité à Monsieur Leroy récemment, mais vous pouvez bien évidemment en bénéficier vous aussi. Alors outre le fait que que ce soit un travail d'équipe, et un moment où ça m'a orienté pour ma part vers l'étude de la maison médiévale, on va essayer de revenir un peu sur le corps du sujet, qui est donc la maison romane. Excusez-moi de mes digressions. La première des choses, donc, on va essayer de voir, commencer par ce qui est peut-être un peu, je fais un peu de provocation, c'est-à-dire que le premier élément important de la maison romane, c'est Viollet-le-Duc. Alors Viollet-le-Duc est important à plusieurs titres. La première chose, c'est que bien évidemment, les Saint-Antoninois connaissaient la maison romane, ne serait-ce que parce qu'elle avait été très longtemps hôtel de ville. Ils la connaissaient sans doute déjà parce que l'édifice se remarque. On ne passe pas devant cette maison sans remarquer qu'elle diffère des autres. C'est la première des choses. Elle était connue, semble-t-il, aussi par quelques érudits. Mais la découverte fondamentale de Viollet-le-Duc, qui est fondamentale, elle l'est parce que Viollet-le-Duc, d'abord, sera plus exactement à cette époque-là, parce qu'il a 28 ans quand il découvre la maison romane de Saint-Antonin. Il est rentré depuis 2-3 ans d'un voyage d'Italie, et on vient de lui confier la restauration de Vézelay. Mais Viollet-le-Duc sera surtout le grand architecte restaurateur, bien sûr, du XIXe siècle, avec une activité considérable. Et une connaissance, c'est ça qui est passionnant aussi, dans l'approche de Viollet-le-Duc, c'est que c'est un homme pour lequel, vous allez vite vous en apercevoir, j'ai une très grande estime. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, en dehors des débats qu'on peut avoir sur la théorie de la restauration, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a d'une très grande honnêteté intellectuelle, d'une intégrité absolument extraordinaire. Et ça se voit très très bien, donc, alors qu'il a 28 ans, dans ses carnets de notes, effectivement, quand il découvre cette maison à Saint-Antonin. Mais l'élément décisif, c'est que Viollet-le-Duc, c'est Paris. Et c'est Paris, et ce sont ces mérimées, ce sont les monuments historiques. Ce qui va permettre, alors qu'il découvre la maison en 1842, d'obtenir dès 1846 des crédits de l'État qui vont en permettre la restauration. Et la restauration va relativement vite, puisqu'elle est réalisée entre 1846, date des premiers travaux, des premiers dégagements qui se font, les premiers crédits, et 1851, où on achève le beffroi dont nous reparlerons. Et tout ça malgré la révolution de 48. Parce que la révolution de 48 va effectivement interrompre les travaux pendant 2 ans pour des histoires, évidemment, de crédits qui n'arrivent plus de la capitale. Donc un personnage important pour la maison romane de Saint-Antonin, et important aussi parce qu'il est intervenu, c'est lui qui a dirigé la restauration, même s'il avait sur place 2 architectes de chargés des travaux. Tout d'abord Lebrun, puis ensuite Théodore Olivier, qui est très connu en Tarn-et-Garonne, parce que non seulement il a participé aussi à la restauration de Moissac, mais également parce qu'il est l'auteur de très nombreuses constructions d'églises, de reconstructions ou de restaurations de châteaux. Viollet-le-Duc donc commence par faire toute une série de dessins, et ce qui est absolument passionnant, c'est la qualité du dessin de Viollet-le-Duc, qui est extrêmement précis. Il dessine pratiquement tous les chapiteaux. Malheureusement, je n'ai pas ici les carnets de dessins de Viollet-le-Duc, mais vous pourriez vous rendre compte de la précision de ses dessins et de l'exactitude également de ce qu'il note. On va reparler tout à l'heure de quelque chose que vous connaissez bien, c'est la fameuse inscription que porte la statue de Justinien. Eh bien, Viollet-le-Duc ne la comprend pas, mais il dessine ce qu'il voit, et c'est comme ça que Léon Bressuire a pu repartir, effectivement, en cherchant, parce que lui, chartiste, était capable de lire très vite les premières lettres de l'inscription. C'est à partir de là que Léon Bressuire, effectivement, parce qu'il travaillait avec la petite fille de Viollet-le-Duc sur le fond de son grand-père ou de son arrière-grand-père, je ne me souviens plus. Et c'est ce qui a déclenché aussi la reprise de ce dossier. Vous savez, en histoire de l'art, comme dans toutes les disciplines, pratiquement, il y a des modes dans la recherche. Il y a des vagues. Des modes qui sont parce qu'on travaille plus sur une période ou plus sur une autre, ou plus sur un animal ou plus sur un autre. Et puis des vagues parce que, effectivement, selon les moyens dont on dispose, à ce moment-là, les connaissances, les moyens techniques, eh bien, on peut reprendre comme ça, de temps en temps, l'étude de ces édifices parce que les conditions ont complètement changé, que la façon de raisonner a complètement changé. Donc, c'est ce qui est arrivé, bien sûr, pour la maison romane de Saint-Antonin. Donc, la première étude, c'est celle de Viollet-le-Duc, de fait, hein, avec les publications qui vont suivre. Et bien évidemment, ces publications, sa perception de l'édifice dépend de la connaissance de l'époque. Ensuite, il y a une deuxième vague dans les années 70 de l'université dont nous reparlerons. Et puis enfin, une troisième vague qui est fortuite parce que la programmation de l'étude sur les 2 cantons de Caluire-Saint-Antonin n'était pas motivée par la maison romane. Donc c'est dans le cadre d'une autre étude que l'étude de ce bâtiment a été reprise et que ça a permis là aussi, avec d'autres moyens, d'avancer dans la connaissance. Viollet-le-Duc, au départ, donc vous voyez les planches qui sont réalisées à partir de ses dessins, qui sont publiées ou non, et il a donc en charge de traiter cet édifice, non seulement de l'identifier, de le reconnaître, de dire ce qu'il est, d'indiquer l'intérêt qu'il a au titre du patrimoine national, mais il doit également proposer des projets de restauration qui tiennent compte de son état. Et le premier, alors vous voyez la qualité des dessins déjà, n'oubliez pas que ce sont pas des dessins originaux, ce sont des dessins qui sont regravés. Donc déjà il y a une perte à chaque fois. Mais ça vous permet de voir la précision en particulier sur les 2 chapiteaux que vous avez ici. Si vous connaissez bien sûr les chapiteaux de la claire-voie, on est très 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 juste dans le dessin. À côté c'est Moissac. Hein. Il a pour autre difficulté de traiter les problèmes de stabilité dont on reparlera, et puis surtout, et c'est l'élément qui va faire polémique pendant longtemps, de traiter le sommet de la tour, qui porte à ce moment-là un campanile, qui est un campanile moderne, probablement du XVIIIe siècle, qui menace ruine, et qui n'est pas à la hauteur en plus de l'édifice, puisque en plus, n'oubliez pas que la théorie du XIXe siècle, c'est qu'on doit restaurer un monument dans son état idéal, y compris quand l'édifice n'a pas été achevé. Donc on n'a pas les scrupules que l'on a aujourd'hui, effectivement, on n'hésite pas, effectivement, à essayer de retrouver le projet initial de l'édifice. C'est pas simplement l'état dans lequel il nous est parvenu. Donc il a la difficulté d'avoir à proposer un couronnement pour remplacer le campanile qui est du XVIIIe siècle. Et il propose tout d'abord, vous voyez, quelque chose de très très simple, hein, un simple mur clocher, petite construction très légère dans laquelle va pouvoir se trouver effectivement la pendule, puisqu'il y a aussi une fonction qui est attribuée à cet édifice. L'édifice n'est plus hôtel de ville, la mairie s'est déplacée sur le couvent des Genovéfains, mais le bâtiment doit être attribué à la justice de paix, donc ça reste un édifice public, avec la nécessité de maintenir donc une horloge. Ce projet n'est pas apprécié par la Commission supérieure des monuments historiques, parce que le Viollet-le-Duc n'est pas seul à décider, bien évidemment, et les projets doivent être approuvés par la Commission des monuments historiques. Donc on lui dit, ben non, par rapport à l'importance de l'édifice, ce signal est trop faible. Donc il va proposer d'autres projets. Vous avez un projet ici qui s'inspire déjà beaucoup plus de l'architecture gothique. Hein, vous le voyez, je pense que vous le distinguez, le dessin est assez faible. Ah, excusez-moi. Oui, ben, malheureusement, même sur mon écran, c'est pas très meilleur. C'est un dessin au crayon, hein, qui est extrêmement léger. Donc, il faut imaginer ici, vous apercevez un polylobe, d'accord, et une baie ici, une baie double, avec des petits pignons là sur les côtés, d'accord. Vous voyez que c'est quelque chose qui est déjà plus architecturé que le dessin précédent. Sur le dessin d'à côté, qui est le troisième projet, vous avez alors carrément quelque chose qui s'inspire de l'architecture du Nord, un véritable beffroi du Nord de la gothique du Nord de la France. Et puis finalement, ce qui va être retenu, c'est le projet que vous connaissez, enfin la réalisation que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire une grosse tour beffroi qui reprend des motifs de l'édifice lui-même, c'est-à-dire par exemple la claire-voie que vous avez ici, qui est empruntée directement à la claire-voie du premier étage, mais qui, pour sa structure d'ensemble, s'inspire de l'architecture italienne, de l'architecture toscane, en particulier de ces tours, avec des faux machicouli, qui donnent un aspect défensif à cette tour, et qui, du point de vue strictement archéologique, n'est pas aberrant. On verra que les liens avec l'Italie existent, hein, effectivement. Mais ce qui, en revanche, est effectivement un échec qu'on reprochera beaucoup à Viollet-le-Duc, alors que vous le voyez, il n'en est pas directement responsable. C'est le côté monumental exagéré de cette tour. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde cet édifice, on est très sévère, effectivement, sur la réalisation. Excepté cette tour, donc, qui demandait un traitement particulier, le reste de l'édifice était véritablement dans une logique de restauration. C'est-à-dire, effectivement, que fait-on pour que cet édifice soit transmis aux générations suivantes, pour qu'il subsiste, pour qu'il soit conservé et dans le meilleur état possible. Il a fallu d'abord renforcer les arcs, comme vous le voyez ici. Toute la partie en verte, ce sont les parties refaites par Viollet-le-Duc. Donc renforcer les arcs ici parce qu'il y avait un problème de charge sur la tour. On a doublé l'arc du passage, repris les pieds, les bases des arcs, ce qui est des boutiques, ce qui est assez logique parce que ce sont des pierres qui sont évidemment facilement abîmées par les passages. Et puis surtout épauler la tour par ce contrefort, en raison de la surcharge évidemment du beffroi. Il y a en fait deux contreforts qui viennent conforter la tour. Vous voyez que, enfin, vous le savez sans doute, c'est plus net évidemment quand c'est en vert, mais que Viollet-le-Duc n'a pas cherché à masquer les ajouts. Et qu'effectivement, quand vous regardez la photographie de Jeanne Truta, par exemple, ici, vous voyez très très bien la différence entre les pierres neuves et les pierres anciennes. Il n'y a pas de faux réalisé. On montre très bien l'intervention qui a été rendue nécessaire. Sur l'arrière, la reconstruction est beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que l'élévation arrière menaçait ruine. Il a fallu donc entièrement la reconstruire. Ce qui a posé des problèmes effectivement techniques assez importants et qui a fait disparaître du coup des informations que nous serions heureux de posséder aujourd'hui. Il a choisi ensuite, puisque l'édifice devait être un édifice avec une utilité réelle, eh bien de placer un escalier en vis que vous connaissez tous, qui est très étroit et qui devait permettre évidemment de desservir la salle de la justice de paix. Vous avez ensuite sur les différents plans, les différents niveaux qui vous montrent les parties qui sont reprises. Vous voyez que l'édifice n'a pas été reconstruit par Viollet-le-Duc. Hein, les parties qui ont le mur arrière, s'il est reconstruit, c'est parce qu'il y a une nécessité impérieuse. Quand il met les contreforts, c'est pour épauler ce beffroi qui malheureusement lui a été imposé. Mais le soupçon qui a pesé sur Viollet-le-Duc pendant, qui pèse encore d'ailleurs, je pense que c'est encore récurrent, de temps en temps, vous entendez dire c'est du Viollet-le-Duc. Comme on dit, parfois c'est du Picasso, c'est un peu la même chose. Donc c'est du Viollet-le-Duc, ça veut dire c'est du Disneyland, c'est du fabriqué, c'est du faux, c'est de l'inventé, etc. Alors la première des choses, c'est que si vous avez l'occasion de lire les textes de Viollet-le-Duc, si vous avez l'occasion de lire des ouvrages qu'il avait fait pour les enfants d'ailleurs, hein, histoire d'un hôtel de ville, histoire d'une maison, ce sont des ouvrages que Viollet-le-Duc rédige pour les enfants, et je suis tombé par hasard un jour aux archives, à la Bibliothèque nationale, sur un courrier de Viollet-le-Duc à son éditeur, où il explique très bien qu'il est désespéré par sa génération, qu'il n'arrivera pas à convaincre, et qu'il espère, donc, en publiant ses ouvrages, former les nouvelles générations de façon à ce que ces nouvelles générations soient plus sensibles au patrimoine. Ça fait combien de temps, Viollet-le-Duc? Je ne suis pas sûr, malheureusement, que le pari ait été gagné. C'est malheureux pour lui, mais c'est surtout malheureux pour nous. C'est une question qui reste récurrente, d'ailleurs. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Donc, Viollet-le-Duc est tellement soupçonné que dans les années 70, c'est pas Viollet-le-Duc, parce qu'en fait, très vite, on dit Viollet-le-Duc, mais c'est l'ensemble des architectes et des restaurations du 19e siècle qui sont soupçonnés, quelquefois à juste titre. Saint-Front de Périgueux a beaucoup changé entre avant la restauration et sa restauration quasi complète. Donc il y a un véritable travail qui se fait dans les universités, de façon, pour les médiévistes, parce que du coup, quand un médiéviste étudie un bâtiment du Moyen-Âge, il étudie quoi? Que sait-il ce qu'il étudie? Est-ce qu'il étudie vraiment un édifice du Moyen-Âge ou est-ce qu'il étudie un édifice du 19e siècle? Donc de très nombreux travaux à Toulouse dirigés par le professeur Marcel Durlia vont être lancés avec des étudiants pour effectivement trier ce qui est à partir des dossiers de restauration, des archives, pour savoir exactement ce qui relève du 19e siècle et ce qui relève véritablement de l'édifice authentique. Donc c'est le travail qui a été fait par Anne-Marie Colliez dans les années 70, qui a fait un excellent mémoire de travail, une excellente étude de ce point de vue-là. Mais malgré tout, dans les années, à la fin des années 88, Léon Pressuire, par exemple, celui qui a identifié l'inscription, bien Léon Pressuire, quand je l'ai rencontré, me disait « Mais la sculpture de Saint-Antonin n'est pas authentique. C'est une création de Viollet-le-Duc. » C'est ce qu'il pensait. Enfin, plus exactement, il soupçonnait. Il n'avait pas d'avis tranché, mais il soupçonnait qu'effectivement cette sculpture soit effectivement quelque chose, une création de Viollet-le-Duc. Alors les dessins dans les archives permettaient de le savoir, mais comment distinguer ce qui est véritablement un dessin sur le vif et ce qui est éventuellement le projet dans les carnets d'un architecte? C'est pas toujours très évident. Et il y avait d'autres arguments, c'est que vous voyez que vous avez ici un chapiteau de la claire-voie. Vous le voyez, à part le nez cassé, cette sculpture est d'une étonnante fraîcheur. Et il traîne un peu dans les consciences, plus ou moins, que quelque chose qui est vieux et quelque chose de décrépit, nécessairement. Et pour la sculpture, c'est pas toujours le cas. Vous avez des pierres qui résistent très mal au temps, très mal aux intempéries, et d'autres qui résistent très très bien. Je reviens de Cluny, donc, où vous avez des sculptures qui sont d'une fraîcheur étonnante. Et vous avez l'impression qu'elles ont été taillées hier. C'est un peu la même chose pour Saint-Antonin. On a une sculpture, effectivement, qui n'est pratiquement pas touchée. Le nez a été cassé, mais tout le reste, vous voyez, vous avez des traces d'outils, pratiquement, dessus. Hein. Alors qu'on avait, en même temps, des chapiteaux. Un chapiteau, en l'occurrence, ici, provenir de Saint-Pons-de-Thémières, qui se trouve dans un musée américain. Et vous le voyez qu'on pouvait se dire, oui, le duc a connu Saint-Pons-de-Thémières et il a copié un chapiteau. Bon, en fait, quand vous regardez les deux chapiteaux, Je pense que déjà vous vous rendez compte que quand on fait une copie, c'est rare qu'on fasse une copie de meilleure qualité que le modèle. Et là, la qualité permet de distinguer immédiatement, effectivement, deux œuvres qui ne sont pas du tout de la même main. Or, bien évidemment, la sculpture de ce chapiteau aux sirènes est exactement de la même main, de la même facture que l'ensemble de la claire-voie. Il n'y a aucun doute. Et quand vous voyez un chapiteau copié par Viollet-le-Duc, lequel c'est, à votre avis? Bon, c'est trop facile parce que la patine vous aide. La patine noire est effectivement l'œuvre originale. Et la copie, regardez bien la copie, c'est une bonne copie, c'est un bon sculpteur. Mais vous voyez que c'est pas tout à fait le même esprit. Hein, dans le traitement des yeux, des choses comme ça. Ce n'est pas un sculpteur roman. Il fait du roman, mais ce n'est pas un sculpteur du XIIe siècle. Donc il n'y a aucun doute, toute la sculpture est intégralement, effectivement, authentique. Et donc on peut véritablement en faire l'analyse. Alors, nous allons essayer de replacer maintenant, revenir au propos que je vous avais annoncé, c'est-à-dire une fois que nous avons déblayé un peu l'édifice des doutes qui pouvaient l'entourer et de son histoire un peu récente, eh bien il faut essayer de replacer cette architecture dans un ensemble plus vaste. Alors tout d'abord, il faut se souvenir que le bâtiment que vous avez actuellement n'est qu'un bâtiment d'un édifice plus grand. Puisqu'effectivement, juste avant la restauration de Viollet-le-Duc, vous aviez derrière la halle qui occupait la totalité de cet espace. Vous aviez un grand degré qui avait été construit, semble-t-il, au XVIIIe siècle. Un grand degré, c'est un grand escalier à volée droite, hein, qui permettait de desservir évidemment l'étage, et vous aviez des boutiques au rez-de-chaussée. Cet espace, donc, il faut comprendre qu'il fait partie de l'hôtel en question, de l'édifice. Nous n'avons donc qu'une toute petite partie, parce que quand on réfléchit, on va en reparler, mais on a des boutiques, on a la salle, on a des chambres, et la cuisine, on la met où? D'accord? Par exemple, où fait-on la cuisine dans ce bâtiment? Donc, effectivement, il y avait probablement un bâtiment arrière. Il me semble me souvenir d'ailleurs qu'il y a un texte qui en parle, mais je crois qu'on n'a pas de texte. Enfin, je suis sûr qu'on n'a pas de texte du XIIe siècle. Donc, il y avait effectivement une cour. Imaginez le corps sur rue, celui que nous connaissons. Une cour et un bâtiment arrière, et éventuellement, donc, des circulations entre les deux. Voici l'organisation de la maison romane de Saint-Antonin. Regardez celle d'une maison de Cahors, à la Dorade. Vous remarquez que vous avez des arcades en partie basse. C'est pas tout à fait la même chose, parce que ici, en fait, ce bâtiment résulte de deux campagnes de construction. Vous avez la ligne de rupture ici. Mais ce que vous remarquez, ce sont des arcades en partie basse, arcades de boutique. D'accord? Trois arcades de boutique ici. Un passage ici sur rue. Ici, il s'agit d'un passage qui conduit dans la cour. Une tour, de la même façon. Hein. Et puis surtout, quelque chose qui est là. Ici. C'est une série de fenêtres continues. Alors, plus ou moins continues, plus ou moins serrées. D'accord? Mais c'est cette série de fenêtres qui, dans une maison médiévale, identifie de l'extérieur ce qu'on en appelle l'aula, la salle. L'aula, c'est L'AULA, bien sûr, c'est le nom hérité, en fait, des palais. Normalement, l'aula, c'est la grande salle publique d'un palais. Et ce terme est passé, alors on pourrait penser que c'est une appellation qui est due, en fait, aux historiens de l'art, qui petit à petit ont fait glisser le vocabulaire, et en fait pas du tout, c'est quelque chose qui est de façon très ancienne a évolué effectivement. Si vous vous souvenez, vous avez sans doute lu l'histoire du village de Montaillou, beaucoup d'entre vous. Quelle est la maison, et la seule maison pour laquelle on parle d'aula? C'est la maison du curé Clergue, qui est une maison à étage. Vous voyez le glissement. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que dans cette salle, eh bien dans la maison médiévale, c'est l'espace semi-privé, semi-public. On y reviendra. La voici, la salle. Donc une grande salle unique, d'accord, derrière la claire-voie. Et donc il faut imaginer en fait que ce espace semi-public, semi-privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient vous voir pour affaire, parce que vous avez des fermiers hein, qui viennent pour affaires aussi, parce que vous recevez un hôte de marque. Eh bien, en fait, c'est dans cette salle que vous le recevez. Les affaires privées et publiques se traitent, publiques au sens de la famille, hein, pour l'instant, se traitent dans cette grande pièce, et c'est le rôle de toute salle de maison médiévale ou de château, puisque le terme, vous allez le retrouver également dans les châteaux. Alors, pourquoi ce terme d'aula? Mais peut-être parce que, dans une maison du Moyen-Âge, le maître des lieux est seigneur chez lui. Il a des droits extrêmement étendus à certains moments et à certains endroits. Le seigneur de la maison a pratiquement droit de vie et de mort sur la personne qui rentrerait par effraction, par exemple, dans la maison. Et il est vraiment le seigneur de la maisonnée. C'est peut-être ce qui expliquerait le glissement, effectivement, de sens. Ces aolas, on les connaît bien sûr, vous les avez dans les maisons, mais vous les avez a fortiori dans les palais. Et le roi de France, effectivement, a une aola dans laquelle il reçoit la même manière et dans laquelle il rend la justice, éventuellement. Nous ne reviendrons pas, donc je vous le signale tout de suite, parce que la question pourrait venir, donc je l'évite, sur ces deux demi-arcs adossés dont je ne peux absolument pas vous expliquer la fonction. Et qui ne sont probablement pas qu'un simple décor. Il y a peut-être une raison de structure, parce que ça permettrait d'étrésillonner les deux murs, mais je n'ai pas d'explication véritablement sérieuse. Dans cette salle se trouvait donc... on sait qu'il n'y avait pas de cheminée. Ce qui n'est pas complètement aberrant. On a des cheminées au XIIe siècle. Hein. C'est pas fréquent, mais ça peut. Et en particulier dans un petit édifice, j'avoue qu'on attendrait une cheminée. En fait, les cheminées se multiplient surtout à partir du début du XIIIe siècle. Donc, on se chauffe comment? On a toute une série de textes hein, qui sont bien connus, où on apporte effectivement déjà des bottes de paille, de la paille que l'on répand sur le sol de la salle, comme on le fait d'ailleurs souvent dans les églises, aussi pour des raisons similaires, semble-t-il, pour que l'espace soit ressenti de façon un peu moins froide. Probablement parce qu'il y a des dalles, hein, évidemment, en sol. Hein. Et puis après, n'oubliez pas, il y a des cultures qui fonctionnent encore largement avec ce mode de chauffage, c'est évidemment les braseros. Vous vous chauffez avec des braseros, et bien évidemment aussi, le sentiment du froid dans une maison n'est pas du tout celle que nous avons aujourd'hui. Mais je vous rappelle que vivre dans des maisons à 21 degrés, c'est quelque chose qui date au maximum de 30 ans. Hein, dans les années 50, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont connu les chambres avec de la glace sur les vitres quand vous aviez une chambre au nord. Hein. C'était pas rare et il n'y avait pas de chauffage dans la chambre. Donc ça n'a rien de très surprenant, on vit habillé, d'autant que l'autre question, c'est le problème de la fermeture des baies. Vous êtes derrière la claire-voie, c'est très très largement ouvert. On ne sait pas, dans le cas de la maison romane de Saint-Antonin, s'il y avait des vitres ou non. La vitrerie se développe beaucoup à partir du XIIIe siècle. Mais avec une vitrerie en plus qui est intégrée souvent dans les réseaux. Vous avez une maison en face de la maison romane, un peu sur la droite, ou en face, qui présente de grands remplages. Vous savez, comme dans les églises, hein, ces grands réseaux de pierres qui, eux, sont faits pour recevoir des verres et donc éclairer la pièce tout en protégeant du froid. Il était possible là, que des volets, par exemple, qui venaient fermer, bien évidemment, la claire-voie, aient reçu des verres enchâssés, des culs de bouteille, par exemple, qui pouvaient éclairer un petit peu. Mais il y a toujours, effectivement, au Moyen-Âge, cette difficulté de choisir la lumière ou la chaleur et qui demande, évidemment, un mode de vie qui est bien différent de celui que nous connaissons. L'autre élément qui était important, c'est qu'il y avait une peinture murale. La voici. Donc nous ne la connaissons malheureusement que par un dessin. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle se trouvait sur le mur nord, c'est-à-dire sur le mur sud. C'est ça, non? Non, ouest, pardon, j'ai plus les orientations. Sur le mur arrière. Ce mur qui a été démoli parce qu'il présentait des faiblesses et qu'il fallait absolument le reconstruire entièrement. Là, nous sommes dans un décor qui n'est pas de 1150, puisque vous connaissez déjà la date, c'est pas la peine que je vous réserve la surprise, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est un décor plus probablement du début du XIIIe siècle. Dans une tradition romane, encore, vous reconnaissez les palmettes, là, qui sont bien romanes, hein, dans l'esprit, mais qui vont effectivement durer un certain temps. temps. Et un élément qui en revanche est un peu plus tardif, c'est la housse qui que porte le cheval que vous avez là. Il n'en reste plus que les pattes arrière. Hein. Un type de motif là encore qui est très connu dans les maisons de cette époque, que l'on soit noble ou que l'on ne soit pas noble. Ne pas être noble ne veut pas dire qu'on ne vit pas noblement et que la référence n'est pas les références de la personne ne sont pas les mêmes références que celles des nobles. Vous en avez un exemple à côté que vous connaissez évidemment très bien aussi, c'est le décor peint qui se trouve sur une cloison de la maison Muratet, où vous apercevez tout d'abord des motifs parfaitement romans que sont ces grands décors qui imitent des tissus sassanides, de grands décors de médaillons contenant des griffons qui sont liés entre eux ou juxtaposés comme ça, comme une grande tapisserie. Donc, et en haut, des cavaliers dans lesquels on reconnaît donc le roi de France, le roi d'Angleterre et le comte de Toulouse, autant que je me souvienne. Donc c'est cette façon effectivement de faire référence à une noblesse qui est assez fréquente. Alors les peintures du XIIe siècle, ça existe bien évidemment dans des maisons du XIIe, mais ça ne veut pas dire que ça soit systématique. Parce qu'on peut très bien avoir des châteaux ou des maisons qui n'ont pas de peinture, mais qui ont des tapisseries par exemple, qui sont suspendues, pour protéger aussi du froid d'ailleurs. Alors après cette salle, il faut s'occuper de cette salle du premier étage, la salle, véritablement, il faut s'occuper du deuxième étage, parce qu'il y a quand même un deuxième étage. Et ce deuxième étage, ben, il est représenté par les trois fenêtres que vous avez là, d'accord ? Qui est donc la même surface que le premier étage. Mais en fait, on sait que, donc la cloison de la maison Muratet vous le montre déjà, que ces grands espaces qui, de l'extérieur, peuvent paraître uniques, peuvent être cloisonnés, et cloisonnés avec des cloisons en pan de bois, c'est le cas de la maison Muratet, mais c'est le cas d'une cloison identifiée plus récemment dans la maison Le Maréchal, où ce qui est très intéressant en plus, bon, je ne vais pas vous faire une analyse archéologique précise de cette cloison, ça serait un peu trop long, parce que j'ai déjà l'impression que je traîne un peu, mais cette cloison donc en pan de bois, qui paraîtrait du XVIIIe siècle, parce que c'est bien connu, un arc segmentaire, enfin pour moi en tout cas, jusqu'à la découverte de cette cloison, un arc comme ça, là, un linteau comme ça, c'était du XVIIIe siècle. Mais pas du tout, la cloison est du XIIIe en l'occurrence, elle a été datée par l'androchronologie en plus, donc maintenant c'est entièrement confirmé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met cette cloison, vous voyez qu'on vient la mettre contre la pierre de l'évier ici. Donc on est obligé d'entailler le poteau, vous ne devez pas bien le voir sur la photographie, mais vous me croyez sur parole, on est obligé d'entailler le poteau pour le coincer sur la pierre d'évier qui du coup a cassé parce que la cloison est descendue. Donc on est absolument sûr qu'on est dans l'état du Moyen-Âge. D'accord ? Donc vous voyez ces espaces, il y a une logique de constructive en plus qui est un peu particulière, c'est-à-dire que vous avez le maçon qui construit l'enveloppe en pierre, et puis après on va mettre des cloisons à l'intérieur. Et pas toujours selon notre logique. Ça ne veut pas dire que la cloison n'était pas prévue. Ça veut dire simplement qu'effectivement, l'organisation du chantier et la façon de penser la maison, là on est au 13e, n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Quoique, mais pour d'autres raisons. Dans les chantiers d'aujourd'hui, je voulais dire, c'était ça, le quoique. Alors, après avoir vu les différentes composantes de la maison, on va revenir un tout petit instant sur la salle du premier étage. Vous avez une petite pièce à côté qui est voûtée. Ce sont les deux étages de la tour sont effectivement voûtés. Il y a une communication entre les deux. Et vous avez ici un banc qui est couvert par deux arcs. Vous avez la retombée ici sur la colonne qui se trouve représentée ici. Et vous avez une petite ouverture qui permettait une communication auditive entre les deux pièces. Et donc là, on peut se demander effectivement si cette pièce n'a pas eu une fonction spécifique, voûtée en plus, par rapport effectivement à la grande salle qui se trouvait là. Et ça, ça va dépendre évidemment de la fonction que l'on attribue à cette salle. Mais vous avez déjà la réponse, donc je ne vais pas jouer encore au suspense, puisque nous supposons qu'il s'agit de la salle de justice du Viguier. Donc là, on peut imaginer peut-être que cette salle est servie effectivement à se retirer pour des délibérations, par exemple. Ou à y conserver éventuellement des archives aussi, puisque le plus souvent, dans des édifices qui ont besoin de conserver des archives, ce sont des pièces voûtées qui reçoivent cette fonction, et on comprend pourquoi, puisque la voûte est a priori une protection contre le feu. Mais c'est dans ces maisons, il faut aussi arriver à circuler. Alors, Aujourd'hui, la distribution que vous avez, nous l'avons dit, c'est la distribution du Viollet-le-Duc, la circulation par cet escalier en vis n'a rien à voir, bien évidemment, avec l'état des années 1150. Mais Viollet-le-Duc a été prudent. Il a conservé ici le vestige de la porte qui permettait d'accéder au premier étage. Vous le voyez bien ? Donc là, on avait donc une porte, et c'est donc à cette porte qu'arrivait l'escalier extérieur. Et voilà le modèle que je peux vous montrer ici, c'est au 52 rue de l'Astier, c'est un grand hôtel de la fin du XIIIe siècle, où là, la salle a été installée au deuxième étage, pour des raisons d'étroitesse de la rue, donc les grandes fenêtres, la grande série de fenêtres est au deuxième étage, et vous voyez qu'on dessert au passage le premier, mais au passage, si vous êtes visiteur et si vous êtes un hôte de marque, c'est un peu que vous savez comme à l'Elysée, là, où vous restez sur le perron, vous descendez, bon, etc. Le décorum de l'escalier dans la cour, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes un invité de marque, le maître des lieux descend l'escalier, vient vous accueillir en bas, et vous montez directement où ? Dans la salle. Ce qui n'est pas du tout notre façon d'imaginer la distribution d'une maison. Mais c'est quelque chose que vous connaissez tous, parce que vous connaissez tous des fermes qui sont du 19e siècle encore. Au 19e que ça commence vraiment à basculer et que vous n'avez plus... J'ai une maison à la campagne qui est du début du 19e, et comme dans beaucoup de fermes du début du 19e siècle encore, quand vous poussez la porte, vous êtes dans la salle. Vous rentrez dans une grande pièce où il y avait la cheminée, l'évier, et éventuellement le lit du couple dominant, ou de la grand-mère, puisque c'est elle qui avait la chance d'avoir en plus le lit près du feu. Vous voyez, cette logique était quelque chose qui s'est maintenu de ce point de vue-là, parce que le pater familias dans la ferme du 19e siècle, il est seigneur chez lui, puis tout à fait de la même manière, mais il est bien seigneur chez lui. Et donc c'est très important dans l'organisation de la demeure de cette époque-là. Et en fait, comment fait-on pour passer au deuxième étage du coup ? C'est un problème, parce que le problème il a été résolu par la vis qui se généralise à partir du XVe siècle. Mais avant ce sont toujours des circulations fractionnées. Alors vous en avez un exemple ici. Là on a simplement un entresol, hein, on a donc une petite resserre qui est desservie par le palier. Et on arrive dans la grande salle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la salle, elle triche, là, mais on y reviendra. Et puis, vous remarquez ici l'échelle de meunier. C'est une restitution sur trace, là. C'est pas une reconstitution fictive. C'est les résultats de l'étude de cette maison où on a tous les éléments pour restituer ce que vous voyez. Donc, en fait, circulation fractionnée. On rentre dans la salle, on passe dans la cuisine. De la cuisine, on monte dans la chambre. Et ici, vous avez une galerie, vous avez les latrines qui rejoignent le corps arrière. Dans la maison romane de Saint-Antonin, en fait, la réponse, elle est dans un texte de Lebrun, qui, annonçant à Viollet-le-Duc qu'il faut que le mur arrière menace, dit qu'il menace en particulier parce qu'il y a un escalier dans l'épaisseur du mur et que la structure a bougé. Et ça, des escaliers intramuraux, on en connaît de très nombreux, dans des tours, dans des châteaux, dans des églises. Ce n'est pas quelque chose de rare. On peut l'avoir dans une maison aussi, mais j'en ai vu deux récemment à Cluny encore, donc hier. Donc ce n'est vraiment pas rare. Donc vous imaginez la circulation qui se fait par le grand degré ici, qui permet d'accéder à la salle. Quand vous êtes dans la salle, vous empruntez, je ne sais pas dans quel sens il était, évidemment, vous empruntez l'escalier dans l'épaisseur du mur qui permet de gagner les étages où sont les caméras, les chambres. Alors, les chambres ou une chambre dans laquelle tout le monde dort, mais c'est difficile de restituer la vie quotidienne, effectivement, dans cette maison, non seulement parce qu'on ne connaît pas les cloisonnements éventuels du deuxième étage, mais en plus, comme je vous le disais à l'origine, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait sur les corps arrière. Ce qui fait qu'on pouvait très bien avoir aussi une porte par ici, qui donnait sur une galerie comme là, qui conduisait sur un autre corps de bâtiment. Ou des dessertes, évidemment, indépendantes. Donc finalement, c'est une maison qui, vous le voyez, n'est pas différente du tout, même dans son organisation, d'une maison normale de ces années-là. Je vous en donne deux autres exemples. Ici, c'est une maison qui peut se dater à peu près de la même époque, au milieu du XIIe siècle. Vous apercevez les grandes baies de boutique en rez-de-chaussée, la porte du passage qui va mener sur la cour. Là, vous distinguez le cordon d'appui, et ici, le départ des fenêtres romanes. Très simple, sans décor. des claveaux à arêtes vives, pas de sculpture, une colonnette bien sûr qui a disparu, mais il faut imaginer une fenêtre, deux fenêtres, trois fenêtres, quatre fenêtres éventuellement. D'accord ? Donc c'est vraiment un schéma absolument normal de la maison à cette époque-là. En voici une autre, donc, qui doit être de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, à Cluny, que j'avais choisie, effectivement, parce qu'elle était très significative, surtout à cause de sa claire-voie. Parce que ça, c'est un mot sur lequel nous allons revenir. Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose de particulier dans la maison romane de Saint-Antonin, c'est sa claire-voie. Elle est particulière à plusieurs titres. D'abord, le choix de la claire-voie, qui dans la région n'est pas généralisé, loin de là. Alors qu'à Cluny, les claire-voies, c'est sur toutes les maisons, sur toutes les façades qui ont conservé des vestiges de baies médiévales, le premier étage, parfois le deuxième pour des raisons de hauteur, est éclairé par une claire-voie. Alors une claire-voie, c'est quoi ? C'est une baie continue, pratiquement, qui est fractionnée simplement par des trumeaux étroits, hein, ou donc les trumeaux, là, ce sont les deux blocs sculptés que vous avez, ou par des colonnettes qui portent les linteaux. Là, vous avez vu que les maisons de Cahors que je vous ai montrées, ce sont pas des claires-voies, ce sont des baies qui sont juxtaposées comme ça, mais il y a toujours un trumeau maçonné entre les deux entiers. Donc déjà une forme qui est un peu exogène, un peu. L'autre élément évidemment fondamental, c'est le décor sculpté. Un décor sculpté qui est déjà étonnant par son abondance, et puis on va le voir par sa qualité, mais d'abord par ce qui a fait couler beaucoup d'encre pendant longtemps, c'est effectivement l'identification de ce fameux personnage. Alors on a supposé Salomon, ce qui est normal, hein, c'est un roi biblique, on a supposé Charlemagne, c'est une référence effectivement importante au Moyen-Âge, et en fait c'est... Et vous voyez qu'effectivement, l'ensemble de la représentation rend la chose possible. Vous avez le sceptre, sur lequel s'est posé l'aigle impérial. Vous avez la couronne, la seule chose qui a disparu à la Révolution, qui a été martelée pour des raisons que vous connaissez. Et vous allez retrouver donc exactement ici, sur une représentation de l'empereur Henri II, je crois, le même type de représentation dans un manuscrit, jusqu'à l'anneau, qui est aussi la représentation, effectivement, du pouvoir impérial ou royal. Donc une figure qui pouvait être identifiée comme un roi ou un empereur, et qui a été identifiée très précisément grâce à cette inscription. Vous voyez qu'elle était effectivement lisible. Ici, il s'agit de ce... On a fait, lors des campagnes photos, nous avions mis un échafaudage sur la façade à cette époque-là. Nous avons fait des photos avec, enfin pas moi, hein, les photographes qui sont des photographes professionnels, des photographies ultraviolets, des photographies en, je sais plus, en infrarouge, on a utilisé plusieurs techniques. Et en fait, la meilleure technique, c'était en fait la couleur qui montrait très bien effectivement les variations de teinte. Et donc on arrivait très bien à redessiner en particulier le premier mot. Et ce premier mot, c'est « Imperatoria iam majestatem ». Et ça, quand vous êtes chartiste, on a fait le jeu sans le vouloir avec le professeur Ourliac, professeur de droit, d'histoire du droit, et quand on lui a dit « ça commence par Imperatorium Majestatem », il a dit « non solum ardor ». Parce que c'est l'incipit, effectivement, donc le début du texte des instituts de Justinien. Et si, effectivement, vous vous amusez à faire la lecture, vous avez bien « Imperatorium ». Alors, entre parenthèses, ce sont les lettres qui sont restituées, hein, qui sont en fait parce que vous avez des abréviations dans les inscriptions au Moyen-Âge, et donc on restitue effectivement, entre parenthèses, les lettres qui sont représentées par une barre. D'accord ? Donc, Imperatoriam Majestatem, non solum armis decoratam. La majesté impériale ne doit pas être simplement décorée par les armes. Sed etiam legibus opportet esse armatam, mais également armé par la loi. Vous voyez le discours qui inverse effectivement les logiques de ce point de vue-là. Ut utrumque tempus bellorum. Alors ne vous inquiétez pas, vous pourriez vous inquiéter, je ne suis pas du tout bon latiniste, la transcription sous les yeux, tout simplement. Et vous pouvez retrouver exactement l'inscription ici, Imperatoriam maiestatem, non, ici le non, le N de non avec l'abréviation au-dessus, le SO de solum, L et le U qui est inclus dans le L, l'abréviation dessus pour le M abrégé, armis, le A qui a le jambage commun avec le R, M pour armatam, etc., etc. Armis, pardon, ici, non, je vais trop vite. Armis, not solum, armis, M, I, S. Décoratam, on a le jambage ici, puis le ratam est là, etc., etc. Donc, aucun doute sur cette inscription qui est désormais parfaitement identifiée et qui aurait pu être lue pratiquement d'après le dessin de Viollet-le-Duc. Alors, évidemment, cette inscription change un peu le sens des choses, parce qu'on était plutôt sur des rois bibliques. Là, désormais, on a affaire à l'empereur Justinien, c'est-à-dire celui qui est considéré au Moyen-Âge comme l'empereur législateur par excellence. C'est un personnage qui est connu, évidemment. Le Moyen-Âge, comme vous savez, n'a pas oublié toute l'histoire, quand même. Mais c'est en plus, ça correspond à un moment où le droit romain, après un abandon d'un siècle à peu près, revient effectivement dans le midi de la France et où on commence à réétudier les instituts de Justinien avec des écoles à Bologne et autres, puis à Montpellier, qui vont gloser, effectivement, travailler effectivement sur ce droit. Et ce qui est intéressant, évidemment très intéressant à Saint-Antonin, et qui était, si vous aviez vu la joie de Paul Ourliac devant cette découverte, lui qui travaillait sur la renaissance du droit romain avec d'autres de ses confrères depuis des années, et de voir incarné, j'allais dire, dans la pierre, effectivement, cette problématique à une époque aussi précoce, pour lui c'était absolument remarquable. Mais ça s'ajoutait en plus que la présence, c'est ça qui est extraordinaire aussi à Saint-Antonin, c'est que vous avez Justinien. Mais c'est qu'on a en plus un acte qui délimite l'une des parties de la vicomté au moment du partage, qui fait référence aussi aux instituts de Justinien, et plus exactement, ça a pu être identifié par les spécialistes de la chose, qui fait référence à des commentaires parfaitement identifiables, effectivement, parce que le Moyen-Âge travaille beaucoup avec des commentaires sur les textes. Et le texte que vous avez là, le but vers lequel tend le droit tout entier de rendre les hommes bons et de les ramener la matière de justice et d'équité, sans laquelle personne ne peut être bon, ce sont des extraits du texte médiéval de partage de la vicomté, mais ce sont des expressions qui proviennent de ces manuscrits de gloses, de commentaires des instituts de Justinien. Et vous voyez que le sens est extrêmement intéressant. Je reprends, le but vers lequel tend le droit tout entier de rendre les hommes bons et de les ramener à la matière de justice et d'équité sans laquelle personne ne peut être bon. En effet, comme rien n'étant toute chose invoqué avec tant d'empressement que l'autorité des lois, qui règle bien les choses divines comme les choses humaines et qui bannit l'iniquité, il est sans elle tout à fait impossible de bien régler la chose humaine ou de bannir l'iniquité. Si malgré tout, dans ce partage, il a été dit quelque chose de plus ou de moins que ce qui est nécessaire, ou encore quelque chose d'insuffisamment idoine, que cela soit imputé à la faiblesse humaine qui se trouve par nature chez les hommes. Le discours est extrêmement cohérent, et vous allez voir qu'il est parfaitement cohérent avec le programme sculpté. Je vous fais faire un petit tour par Venise, par le palais des Doges, effectivement, où vous retrouvez un programme analogue. Alors là, il est très tardif. On est au 15e siècle, 14e, 15e siècle, avec une représentation d'Adam et Ève. Et parmi les sculptures du palais des Doges, vous avez une représentation des vertus, mais aussi des vices. Les vices que nous allons retrouver sur la maison romane de Saint-Antonin. On a bien là quelque chose qui correspond véritablement à la pensée du Moyen-Âge. Et parce qu'il est probable que ce programme ait existé avant la reconstruction des 14e et 15e siècles. Et les voici donc ces vices. Il s'agit tout d'abord de la discorde, ici, ou la colère. Oui, deux personnages qui sont en train de s'empoigner, et visiblement, ça, voilà, c'est la discorde. Ici, c'est la médisance, avec ces deux aigles qui viennent non pas arracher la langue pour le coup, mais qui s'intéressent à la bouche, qui médit. Avec la sirène oiseau, dont la tête est attaquée par un serpent et l'oreille par un autre oiseau, on a les mauvaises pensées et la complaisance à la médisance, si vous voulez. Ensuite, les deux sirènes poissons, qui tiennent un poisson entre elles, sont une représentation de l'impureté, qui est suivie ensuite par la bestialité. Là, vous avez un personnage nu jusqu'à la ceinture, à partir du bas, j'entends, et qui chevauche un monstre. La bestialité, donc. Et le dernier chapiteau, qui, lui, est un chapiteau que vous pourriez reconnaître très facilement, ce sont les vices enchaînés. C'est un thème que vous retrouvez, finalement, avec aussi Daniel dans la fosse aux lions. Hein, ce sont des thèmes assez similaires, assez parallèles. Donc, en fait, tous ces chapiteaux avec les vices, il arrive de les voir sur des maisons, sur de l'architecture civile, mais ce sont des thèmes que vous pourriez retrouver parfaitement au portail des églises. Il n'y a pas de différence. Alors, j'ai cru pendant longtemps que c'était un peu par manque d'imagination. C'est un peu présomptueux, dans la jeunesse, on est toujours un peu présomptueux. Qu'effectivement, le sculpteur était un excellent sculpteur, mais que sur le plan du programme iconographique, il n'inventait rien, il a emprunté les modèles, effectivement, à d'autres lieux. En fait, je pense que c'est parfaitement réfléchi. Parce que le texte que nous venons de voir ne parle pas du crime ou du vol. Il parle de la nature humaine. Et que la loi humaine est nécessaire pour améliorer l'homme, l'améliorer dans sa nature, parce que par nature, il est pécheur. Et donc, c'est tout à fait normal, effectivement, qu'on ne retrouve pas des faits qui seraient répréhensibles du point de vue de la loi, mais bien des éléments qui relèvent de la nature humaine. Et qui, des vices, effectivement, qui sont en tout homme et qui peuvent être enchaînés, et la loi peut aider, effectivement, à améliorer la nature humaine. Donc quelque chose de beaucoup plus cohérent, c'est en préparant cette conférence que je m'en suis rendu compte.